Bonjour, aujourd'hui en ce 6 septembre, c'est la fête de plusieurs saints peu connus, mais fort intéressants, dont des saints du Japon, des bienheureux. Et je vous parlerai au besoin, brièvement, de Lourdes en prévision de la nativité, c'est-à-dire un petit jour de Noël, si on veut, le 8 septembre. C'est la nativité de la Sainte Vierge de Marie que l'on célèbre. Son Noël à elle, si on peut dire. Et alors, au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne, j'oubliais de me nommer. Je vous parle donc au début des bienheureux japonais. C'est toujours émouvant de lire les récits des martyrs de cette époque, c'est-à-dire de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe. Aujourd'hui, le supplice a eu lieu en 1597. Des bienheureux Thomas, Jiu et Louis et Jean Mackie. On en a rencontré déjà des groupes de martyrs du Japon, je vous en ai déjà parlé. Et je vous raconterai en détail le récit d'un martyr terrible en vous lisant un très beau texte du plus grand écrivain catholique japonais dont je vous ai déjà parlé, Monsieur Endo, E-N-D-O. Si vous voyez des livres de Monsieur Endo, c'est à lire. Hein, c'est vraiment un auteur catholique qui sait mêler à la fois la culture, l'intelligence, la foi. Et il est acclamé au Japon et aussi en France. Il est grandement apprécié. C'est un des rares auteurs chrétiens aujourd'hui, et c'est curieux, il est du Japon. On nous l'a déjà présenté à la télévision un jour. J'avais été émerveillé par la qualité de cet homme, très saint, très vrai, très intelligent, brillant. Hein. Et donc, nos martyrs d'aujourd'hui ont leur place, comme bien d'autres martyrs japonais, dans l'année liturgique. Hein. Et la notice, aujourd'hui, leur est consacrée. Le récit a été fait par un jésuite qui était leur contemporain, qui s'appelait le père Ludovico Froes, F-R-O-E-T-R-E-M-A-S. Ils ont été crucifiés sur la montagne de Nagasaki, là où la bombe atomique est tombée, la deuxième, Hiroshima la première, et quelques jours plus tard, Nagasaki, je vous en avais parlé dans le temps, hein. Et quand on a commémoré ces événements épouvantables. Donc, ils ont été crucifiés sur la montagne de Nagasaki. Ils étaient 26 chrétiens qui avaient montré jusqu'au bout un courage absolument admirable pour des nouveaux chrétiens, extraordinaire, une conviction, un amour de Dieu absolument stupéfiant. C'était digne des premier martyr de l'Église dont je vous ai parlé. Je vous ai déjà parlé des martyrs de Rome à la fin du premier siècle. Je vous ai surtout parlé des martyrs de Lyon au début de l'Église de France, hein, il y a très 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 longtemps. Et ces premiers chrétiens ont été martyrisés souvent dans des circonstances épouvantables sous l'Empire romain. Où les barbares, vraiment, qui étaient les Romains, les barbares, c'était ceux qu'on appelait comme ça les barbares, les gens comme nos ancêtres français ou ceux qui venaient d'Angleterre, etc., qui descendaient sur l'Europe, particulièrement les Goths, les Visigoths, les Vandales, etc. C'était eux les barbares, mais des fois je me demande si les Romains, apparemment civilisés, n'étaient pas plus barbares de martyriser ainsi des gens devant des auditoires immenses. C'était invraisemblable. Et parmi les bienheureux d'aujourd'hui, il y avait deux enfants japonais. Donc, avec les martyrs Thomas Jiu, c'est très étrange ce nom, c'est T-S-O-U-J-T. Très, très curieux. Ah, donc, il y avait aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, Louis et Jean Mackie, M-A-K-I, tout simplement. Alors, c'est un quart de siècle plus tard, n'est-ce pas, que eux, leur leur sacrifice a eu lieu. La persécution sévissait toujours de 1597, on peut dire jusqu'à 1626-29 même. Il y a eu cette grande persécution contre les chrétiens. Et Thomas, Louis et Jean ont été martyrisés. Ils ont été saisis, pris par la police le 21 juillet 1626. Et c'était la police du gouverneur de la ville de Nagasaki. Alors qu'il, Thomas Jusch venait célébrer clandestinement la messe, car il était prêtre. Et son cas tranche sur ceux des chrétiens martyrisés 25 ans plus tôt. On peut constituer, si on peut dire, à partir de ça, on peut élaborer toute une façon de nous encourager nous-mêmes, nous qui connaissons notre faiblesse. Car ce jésuite avait de grandes qualités. Il était d'une franchise absolument brutale. Peut-être comme certains jésuites que j'ai connus dans ma jeunesse, qui étaient d'une franchise un peu brutale. J'ai eu à en souffrir parfois, mais au fond, on en souffre peut-être sur le moment, mais on peut en profiter en passant par-dessus ça. Car certains des jésuites d'autrefois, en tous les cas, pouvaient être un peu cassants. Mais ils ne faisaient pas ça par méchanceté, ils faisaient ça parce qu'ils étaient un peu comme des soldats, je dirais, de Jésus-Christ. Et c'était une spiritualité d'autrefois. Hein. Donc, lui, il était d'une franchise brutale et même intempestive. Hein. Ça contribuait pas toujours à rapprocher les hommes du cœur tout aimant de Jésus-Christ, dont il était pourtant le ministre. Ça peut consoler certains d'entre nous qui avons de mauvais caractères. Voilà quelqu'un qui avait, un mauvais caractère et qui est béatifié. Chose étrange, hein, et au plus fort de la persécution contre les chrétiens, eh bien, cet homme qui était dur pour les autres, ce jésuite, ce prêtre, qui était peut-être persuadé aussi de sa propre force face au martyr, il était fier de lui-même, il se disait « je vais aller au martyr avec grand courage », eh bien, il y avait un autre défaut, la crainte, et il a pris peur. Et comme on s'en prenait plus particulièrement aux prêtres et aux religieux, il avait quitté les jésuites, il avait renié ses vœux, mais finalement, touché par la grâce, hein, pris de remords, il a sollicité sa réintégration. Il a fait, au fond, quoi? Comme l'enfant prodigue qu'on connaît dans l'Évangile, hein, cet enfant qui prend son héritage, qui va le dissiper, qui décide de revenir, mais qui est pardonné. Alors, on l'avait repris chez les jésuites, et par la suite, il s'est montré digne de tous ceux qui l'avaient précédé sur le chemin du sacrifice, là, de la mort. Après un an de prison à Omura, on l'a vu revenir à Nagasaki. Il a été condamné, imaginez, être brûlé vif, avec Louis Maki, un laïc, lui. Louis Maki, un laïc âgé de 50 ans. Et aussi le fils de Louis Maki, Jean, qui n'avait que 27 ans, chez lesquels il avait célébré la messe qui l'a fait condamner à mort. Et jusqu'à la fin, Thomas a encouragé ses compagnons et il a témoigné d'une foi fantastique devant ses bourreaux. L'an prochain, je vous lirai plus longuement et j'en pourrai consacrer au besoin toute l'émission à ces bienheureux martyrs japonais et au récit absolument terrifiant mais admirable de leur mort pour Jésus-Christ. Et maintenant, nous passons à un abbé de monastère. Beaucoup de saints, comme vous voyez, sont des moines. Ça arrive très souvent. C'est peut-être ce qui a entaché un peu la spiritualité de notre Église, tous ces moines, ces religieux, ces religieuses qui ont été canonisés, au point qu'on pense qu'il est impensable de se sanctifier ailleurs, mais plusieurs fois je vous ai parlé de laïcs, de mères de famille, etc., et on a pu voir tout à l'heure ce japonais, maquis, n'est-ce pas, et son fils, qui Thomas et Jean, qui ont été béatifiés, 50 ans et 27 ans, des laïcs. Et alors donc ce moine qu'on célèbre aujourd'hui, ou qu'on célébrait autrefois dans l'église, certains prétendent que sa fête a été transférée il n'y a pas longtemps, au 18 juillet. C'est Saint Pambon, quel étrange nom, P-A-M-B-O-N, Pambon de Nitrie. Il s'est attaché, lui, dès sa jeunesse, au fameux Saint-Antoine, dont je vous ai déjà parlé, le fondateur, si on peut dire, du monachisme, il y a très très longtemps, ça, c'est au IVe siècle, je crois. Saint-Antoine, n'est-ce pas, dans le désert. Et il était pressé, il voulait vraiment être admis au nombre des disciples. Alors il a demandé des règles de conduite, et Antoine, qui était le patriarche, comme je viens de vous le dire, on peut dire l'ancêtre des grands solitaires du désert, il a dit qu'il devait toujours vivre comment? C'est la base pour les moines, vivre dans la pénitence et le regret d'avoir offensé Dieu. Il fallait qu'il se prive de toute affection mauvaise. Il fallait qu'il ne se confie jamais en lui-même, c'est-à-dire qu'il ne soit jamais fier outre mesure de certaines qualités qu'il pouvait avoir reçues de Dieu, et jamais être présomptueux, quoi. Antoine lui a demandé aussi de veiller assidûment sur son cœur et sur ses sens, afin qu'il puisse rester célibataire et tout à fait consacré à Dieu. Le célibat des moines est pas facile. Et on lui a demandé aussi de faire chaque action comme devant en rendre compte à Dieu. Je crois que ça, tout le monde, c'est une spiritualité qui peut s'appliquer à tout le monde. Hein. On lui a demandé aussi de réprimer sa langue et sa sensualité. Donc, pratiquer beaucoup le silence et éviter de satisfaire ses sens, que ce soit le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher. Être prudent, quoi. Ce sont des règles traditionnelles que l'on retrouve dans toutes les religions pour ce qui concerne la perfection, quoi. Et Pambon, dès ce moment, a suivi ces conseils-là. Et il a excellé tellement parmi les anciens solitaires du temps de Saint-Antoine, par la pratique de toutes les vertus, qu'on s'est mis à le remarquer. Il gardait le silence avec tant de régularité que, s'il était obligé de parler, disait-on, ce n'était qu'en peu de mots, et souvent après y avoir réfléchi. Il n'y a pas si longtemps, je me souviens, quand nous allions à la trappe d'Oka, c'était comme ça, hein? Ces moines ne parlaient pour ainsi dire jamais, ils n'avaient jamais de récréation, n'ouvraient jamais la bouche, parlaient par signes, ils avaient un langage. Il y avait même un livre que j'ai déjà vu à l'usage des trappistes, c'était le langage par signes, un peu comme le langage par signes des souris muets. Et ces hommes, comme les trappistines, les femmes, qui sont des cisterciens réformés, des cisterciennes réformées, pratiquaient ainsi le silence jusqu'au temps du concile, quoi. Ils avaient fait ça depuis la grande réforme de l'abbé de la Trappe, l'abbé de Rancé, son nom de famille, de Rancé, qui était un homme extrêmement rigoureux. Il faut lire les textes de l'époque, au XVIIIe siècle, c'était terrible, et vraiment il n'y allait pas de main morte. Donc, un saint abbé d'un groupe de moines disait de lui, on remarque dans Pambon trois pratiques extérieures bien essentielles à la vie solitaire. Son jeûne, qui va tous les jours jusqu'au soir, son silence et son application au travail des mains. Tout simplement. Ça se pratique encore aujourd'hui par milliers dans les monastères et dans bien des emplois. Hein. Le jeûne, qui semble quelque chose de difficile, est devenu à la mode pour la santé, la purification du corps. Beaucoup de gens qui sont plutôt agnostiques, ou dans le Nouvel Âge, ou dans toutes sortes de cheminements nouveau, là, pratique le jeûne, car le jeûne peut être une excellente chose sous la conduite sérieuse de gens compétents, particulièrement de médecins, pour faire attention. Mais le jeûne est recommandé de plus en plus dans l'Église à la suite des apparitions de la Vierge à Medjugorje où l'on dit, où l'on prétend qu'elle demande de jeûner le mercredi et le vendredi et même le samedi et de réduire la nourriture au pain, un pain cependant riche en protéines et à l'eau, hein, peut-être le jus de fruits pour certains. Beaucoup de gens le pratiquent et s'en portent bien, mais je crains que ce soit parfois un peu exagéré dans un pays comme le nôtre, surtout en hiver, pour faire attention. Donc, ils pratiquaient le jeûne jusqu'au soir, le silence et une application au travail des mains. Il est très juste que c'est mieux de faire du travail manuel, du jardinage, laver soi-même le plancher, le ciré, tant qu'on peut, à moins d'être trop âgé, de ne plus pouvoir le faire. Donc saint Antoine, pour ainsi dire son mentor, son supérieur, saint Antoine lui-même, en parlant de notre saint, saint Pambon, l'appelait, c'est très beau, le sanctuaire du Saint-Esprit. Mais c'est vrai que nous sommes tous le sanctuaire du Saint-Esprit. Pourquoi? Je vous rappelle simplement cette parole que vous connaissez tous, n'est-ce pas? Si quelqu'un croit en moi, mon Père et moi, nous viendrons en lui, nous y ferons notre demeure, dit Jésus, c'est dans les évangiles. Et si son Père et lui viennent, eux qui ne forment qu'un seul Dieu, évidemment que l'Esprit Saint est là. Et l'Esprit Saint qui habite l'Église d'une façon très particulière, où habite-t-il l'Église si ce n'est dans le cœur des baptisés, dans le cœur des croyants, dans le cœur de ceux qui veulent se donner à Dieu dans un grand geste intérieur d'amour. Et lorsque Pambon s'est retiré dans le désert de Nitrie, d'où son nom de Saint Pambon de Nitrie, il s'est arrêté dans son voyage quelque temps dans un monastère appelé des cellules. On en parle souvent quand on parle des premiers moines de l'Église, des cellules, où Ruffin, qui a beaucoup écrit, dit qu'il alla recevoir la bénédiction. En 374, on demandait facilement la bénédiction dans ce temps-là, comme on la demandait encore récemment, je me souviens du temps, ou facilement, lors de la visite d'un prêtre dans une maison, les gens dans la maison demandaient la bénédiction du prêtre. On demandait qu'il bénisse la maison. La bénédiction, c'est quoi? C'est demander à Dieu que sa présence constante sur les lieux d'un foyer chrétien, dans l'âme des ceux qui habitent la maison, mais sa présence soit plus médiate, que les gens qui y vivent songent plus intimement à cette présence profonde et qu'ils soient sensibles à la présence de Dieu. Bénir une maison, c'est ça que ça veut dire, hein? Que ceux qui l'habitent aient le sens de la présence de Dieu, car Dieu est présent partout, et que certaines forces du mal se retirent au besoin. Donc il est arrivé enfin au monastère de Nitrie, et on dit que sainte Mélanie l'Ancienne, je salue les Mélanie en passant, un jour on parlera de sainte Mélanie l'Ancienne, est venue le voir. Elle lui a offert 300 livres pesants d'argent. C'est énorme, car il était très riche. Elle avait reçu un héritage énorme. Elle l'a prié d'accepter cette somme, qui provenait de son héritage, pour assister les frères, les moines, qui étaient dans le besoin. Et Pambon, dit-on, et je trouve ça exagéré, sans quitter le travail, puisqu'il était très fidèle à son travail manuel, il était très occupé, a reçu l'argent sans regarder ni Mélanie ni l'argent, mais il lui a parlé. Il lui a dit que Dieu récompenserait sa charité. Et il a ordonné à un de ses disciples qui était là, Origène, il s'appelait Origène, c'est pas l'autre Origène, de distribuer l'argent à des moines de Libye, Ça peut sembler curieux aujourd'hui quand on pense à Kadhafi, quand on pense à la Libye musulmane d'aujourd'hui. Eh bien oui, c'était plein de moines en Libye, c'était plein de moines en Afrique du Nord, c'était plein de moines en Égypte, hein, en Syrie, partout, dans tous ces pays musulmans d'aujourd'hui. Les chrétiens étaient innombrables et les monastères de Libye étaient très pauvres. Et notre saint Pambon voulait les aider. Comme aujourd'hui encore, bien des monastères ont besoin d'aide, particulièrement des monastères de femmes. Il y en a qui sont très pauvres. Sainte Mélanie, l'ancienne, lui a fait remarquer qu'il y avait là 300 livres pesants d'argent. Il lui a répondu, « Ma fille, Seigneur, qui n'a pas dédaigné de recevoir deux oboles de la main de la veuve. » Vous vous souvenez le bol de la veuve, hein? Jésus dit que cette obole est plus précieuse aux yeux de Dieu parce que c'est tout ce qu'elle avait. Donc, il n'a pas dédaigné de recevoir deux oboles de la main de la veuve. Il a plus estimé que les grands présents des riches. C'est quel est votre présent, a-t-il dit à Mélanie l'ancienne. En d'autres termes, Dieu sait, le Seigneur sait que vous avez beaucoup donné, mais c'est pas le montant qui compte, c'est le cœur. Il lui rappelle cette vérité qui vient de l'Évangile, que quand on voit une simple personne à la quête donner 10 cents ou 25 cents, on peut se dire quelle horreur, n'est pas capable d'être un peu plus généreuse dans une église plutôt vaste, où il faut réparer les vitraux, le toit, chauffer, payer l'éclairage. Il y a 100 lampes d'allumées, 200 lampes d'allumées, suivant dans l'église, des ampoules d'allumées, c'est énorme. Hein. Tous les frais, l'entretien du presbytère, payer le prêtre pour qu'il puisse vivre un peu, et qu'il mange trois fois par jour, le bedeau, et qu'il y a une femme, des enfants, etc., etc. Je m'excuse, je devrais dire le sacriste. Et alors, puis tout ce que ça coûte, l'organiste, etc. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas donner plus que 10 cents ou 25 cents. Tellement ils sont coincés. Et le robot est peut-être bien plus valable que la personne qui donne 20 dollars à la quête. Très rare, 20 dollars, on voit ça rarement. Moi, je fais souvent la quête. Je n'ai à peu près jamais vu ça. On voit ça aux États-Unis, mais pas ici. Hein. Mélanie, donc, s'est retirée, pénétrée de vénération pour notre saint Pambon. Elle avait compris, car elle trouvait qu'il avait un air spirituel remarquable, presque divin, a-t-elle rapporté, que ça inspirait tant de respect qu'on osait regarder Pambon en pleine face, comme on dit, en langage ordinaire. Alors, notre Pambon s'est rendu à Alexandrie, où il a été invité par saint Athanase, dont je vous ai déjà parlé, ce grand évêque. Il est rentré finalement dans son désert pour se préparer à la mort, et quelques heures avant de rendre le dernier soupir, il a béni Dieu d'avoir toujours été fidèle à sa vocation. Je me souviens d'avoir vu des vieux moines approcher de la mort, de vieilles religieuses aussi, dans des cloîtres comme chez les Clarisses, où avec l'abbé Marcel Brisebois, nous avions tourné un film à Valleyfield. Ces religieuses très âgées, ces moines très anciens, qui ont vécu toute leur vie en présence de Dieu, avec des moments de sécheresse épouvantable, le désert à travers lequel ils ont dû vivre souvent pendant des années. N'oublions pas que sainte Thérèse d'Avila, cette grande mystique, a vécu un désert comme ça durant 17 ans. Très dur. Ils arrivent au terme avec un regard beau, comme le frère Hilaire à Saint-Benoît-du-Lac. Le dernier des Français fondateurs qui est mort là-bas avait un regard superbe. Il disait au père prieur avant de mourir, « Je la vois, je la vois. » Et le père prieur disait, « Je suis sûr qu'il a vu la Vierge en mourant. » Alors, il Pambon ajoutait, « Je vais à lui, à Dieu, plein de confiance en sa miséricorde, mais comme un homme qui à peine a commencé à le servir. Il est mort à l'âge de 70 ans, sans maladie ni douleur. Et dans le moment où il était occupé d'ailleurs à faire une corbeille, qui fut donnée entière à sainte Mélanie, et qu'elle a conservée précieusement jusqu'à sa propre mort. Et dans le vieux texte dont je m'inspire pour ça, qui est paru en 1825, c'est dans des vieux livres que j'ai achetés à Paris, qui sont magnifiques, eh bien, on dit à la fin, les austérités pratiquées dans les déserts ne conviennent point aux gens du monde. Elles seraient même incompatibles avec les devoirs de leur État. Mais tous sont capables d'aimer Dieu souverainement et de faire de cet amour le principe de leur pensée, de leurs désirs, de leurs actions. Voilà ce que peuvent faire avec la grâce tous ceux qui ont du cœur. Dans quelques circonstances que nous nous trouvions, nous avons mis l'occasion de soumettre nos penchants par la mortification, de régler les mouvements de nos cœurs et de purifier nos affections par le recueillement et la prière, d'unir nos âmes à Dieu par des actes réitérés de l'amour divin. Tous les hommes, toutes les femmes peuvent trouver dans les fonctions de leur état des moyens de pratiquer ces vertus héroïques qui conduisent à la perfection. Nous sommes de retour à Rencontre spirituelle et je voudrais vous parler, durant quelques minutes, de Lourdes. En prévision, comme je vous ai dit au début de l'émission, en prévision de la naissance de Marie, la fête de sa naissance le 8 septembre. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Nous continuons donc Rencontre spirituelle et voici le cas très intéressant de Gérard Bailly qui a été miraculé à Lourdes. C'était le 6 septembre 1947, ce jeune enfant qui n'avait que 6 ans et demi. Il venait du nord de la France, de Saint-Paul-sur-Mer. Il souffrait de la vue. Il était atteint de chloriorétinite bilatérale avec double atrophie optique. C'est grave. Aveugle du fait de cette maladie depuis l'âge de 2 ans et demi. Et ce jour-là, bien, il a retrouvé la vue, subitement, en faisant le chemin de croix avec sa mère. 6 ans et demi. Le lendemain, un dimanche, il est conduit par le docteur Luret chez le docteur Camps, qui était un spécialiste estimé à Tarbes. Tarbes, c'est tout près de Lourdes, qui constate longuement qu'avec des lésions persistantes de chloriorétinite, l'enfant voit quand même. Joseph Bellenier l'a conduit à son domicile à Lourdes, là où il logeait temporairement, le même jour. Il l'a vu s'émerveiller joyeusement de tout ce que la vision qu'il avait retrouvée lui permettait de découvrir. Et depuis lors, la vision s'est affermie. Le petit Gérard Bailly, B-A-I-2-L-I-E, Bailly. Gérard Bailly était, avant sa guérison, élève à l'Institut de rééducation des jeunes aveugles à Arras, en France. Alors, il est retourné là, quand il a quitté Lourdes, mais il était bientôt invité à quitter cette institution, car on disait qu'il n'y avait pas de raison d'y rester. Et puis, à compter d'octobre 1947, il est devenu élève à l'école ordinaire Saint-Jean-Baptiste de Dunkerque, dans le nord de la France. Il a suivi sa classe, comme tous les autres enfants. Ça, c'était en octobre 1947. Le miracle est arrivé en septembre, et en octobre, il est allé à la classe avec les autres enfants, normaux. Normaux, entendons-nous. Disons, moins handicapés visuellement, car nous sommes tous plus ou moins handicapés visuellement. Et en juillet 1948, il a eu à subir au bureau médical de Lourdes un certain nombre de tests. Ça faisait près d'un an que le miracle était arrivé. Il a pu copier sur une feuille blanche des lettres témoins qu'on lui avait silencieusement tracées. Puis de même, il a pu faire un certain nombre de petites opérations arithmétiques. Il était tout jeune, 7 ans, ça aurait été impossible de faire ça sans le contrôle de la vue. Examiné par un très très grand ophtalmologiste anglais, le docteur Smith, très réputé à l'époque, se trouvait de passage à Lourdes dans ce mois de juillet, il a pu être démontré que cet enfant conservait ses lésions antérieures là, de chorioretinite avec atrophie optique bilatérale et que l'état anatomique de ce qu'on appelle les tuniques oculaires ne permettait pas une vision qu'il possédait pourtant. Il n'était pas supposé voir, or il voyait. Puis ça, c'est un très grand ophtalmologiste anglais qui était de passage à Lourdes qui l'a examiné longuement. Depuis ce premier stade extraordinaire, s'est encore produit un événement dont on n'a jamais vu l'équivalent dans la science humaine. Après 4 ans de destruction de ce qu'on appelle toujours les tuniques internes de l'œil et 4 ans d'atrophie du nerf optique, Gérard Bailly a régénéré sa rétine et son nerf optique. Alors le bureau des constatations des miracles ou des phénomènes à Lourdes a entériné comme extraordinaire cette guérison, donc cette année-là, en 1948. La commission médicale de Paris a jugé de même le 12 juillet de l'année suivante, en 1949. Ils ont trouvé cette guérison absolument remarquable. Mais écoutez bien ça. Par prudence extrême, l'Église, en la personne de son éminence cardinal Liénard, tout en l'acceptant comme telle, cette guérison fantastique, n'a pas voulu la déclarer miraculeuse parce que, quoique très suffisante, elle n'est pas apparue plénière, comme la commission de l'Église l'aurait désiré. Il demeurerait, quand même, là, que d'une vision zéro à une vision 3/10, un médecin déclarait, il y a l'infini entre une vision zéro, d'aveugle complet, à une vision 3/10. Or, qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas, à Lourdes, pour juger de la qualité d'un tel miracle? On en a reconnu à Lourdes, des athées, des agnostiques ont dû s'incliner devant des faits qui étaient absolument inexplicables et qui dépassent tout entendement. Hein. Tant de fois ont été appliquées des règles sages que le pape Benoît XIV a établies pour discuter d'une façon théologique, si on peut dire, d'une façon sérieuse, là, des miracles possibles. Il faut toujours constater, premièrement, il y a 6 conditions, je vous les donne, parce que c'est très intéressant. La première condition, c'est qu'il faut que la maladie ait été grave, et sinon incurable, du moins difficilement guérissable. Deuxièmement, c'est toujours il faut que toutes ces conditions-là soient remplies. Hein. Deuxième condition, que la guérison soudaine n'a pas été précédée d'une amélioration notable. Troisièmement, qu'aucun remède n'a été employé sur l'heure ou que les remèdes ont été inefficaces. Quatrièmement, que la guérison a été subite ou presque subite. Cinquièmement, que la guérison a été parfaite. Et sixièmement, qu'elle a été définitive. Donc, il faut attendre pendant un bon bout de temps, souvent des années. Pour résumer en quelques mots, il faut qu'on ne trouve à cette guérison aucune explication naturelle ou scientifique. C'est sérieux. Hein? Les gens qui croient que les catholiques sont de pauvres naïfs et de pauvres nigauds, qui acceptent des miracles en hurlant comme ça au premier phénomène psychologique, se trompent grossièrement. Il arrive qu'on voit à la télévision ces temps-ci, depuis quelques années d'ailleurs, des tas de pseudo-miracles obtenu par des gens plus ou moins surexcités, et ça me blesse, moi. Ça me fait beaucoup de chagrin. Je trouve qu'on exagère, et que ce qui est intéressant dans la vie spirituelle, c'est pas les phénomènes, c'est le sérieux avec lequel on permet à Dieu d'agir en nous. Hein. Quand on reconnaît que l'Église est sérieuse dans la reconnaissance des miracles, on peut toujours se poser des questions, se demander si la guérison provient vraiment de Dieu. Et c'est par l'ensemble des circonstances qui entourent la guérison et qui la conditionnent, que l'on peut discerner l'origine réelle de la guérison et la classer comme surnaturelle ou de type plus ou moins diabolique ou plus ou moins d'un phénomène psychologique. Benoît XIV, le pape, là, a différencié les vrais des faux miracles par l'efficacité d'une part, l'utilité, le mode ou la façon, la fin ou le but, puis la personne elle-même aussi, l'occasion, tout ça est analysé. C'est surprenant, quand on lit les détails autour des expertises médicales, on se dit, c'est pas croyable. Hein? D'ailleurs, à Lourdes, dans les archives, on garde la réponse collective de 346 médecins qui répondent en 1906 à l'appel du professeur Vincent de Lyon. Et on a compté parmi eux 42 internes des hôpitaux, 14 chefs de clinique et de laboratoire, 42 chirurgiens ou médecins des hôpitaux, 12 professeurs de faculté de médecine, 3 membres de l'Académie de médecine, et qui disent les sous-signés se font un devoir de reconnaître que des guérisons se produisent en grand nombre à Lourdes par une action particulière dont la science ignore encore le secret formulaire et qu'elle ne peut rationnellement expliquer par les seules forces de la nature. C'est pas n'importe qui accepte ça. D'ailleurs, il y a des témoignages de valeur que l'on peut lire, affichés au bureau des constatations. À Lourdes, sont venus prier des médecins convertis, comme le docteur Longo, si vous préférez, qui était un ancien médecin anarchiste et franc-maçon de Montmartre, qui est devenu franciscain et qui est mort en apôtre à Tunis, en Afrique du Nord, en 1907. Il y a le docteur Bull, un médecin canadien de langue anglaise. Il avait vécu longtemps hostile à la Sainte Vierge et au pape. Puis, il avait été élevé dans les préjugés que recevaient les protestants à l'époque. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, heureusement, pour la plupart des protestants. Et j'espère qu'aussi la plupart des catholiques ont, dans le cœur, beaucoup de tendresse, de respect à l'égard des protestants. Et un jour vint, le docteur Bull a cherché une réponse aux questions profondes de son âme, qui était profondément insatisfaite. Et alors, il a raconté, dans des confidences qui étaient vraiment émouvantes, dans son bureau de la place Vendôme à Paris, et il a souvent récité, à la demande de certaines de ses clientes, une invocation à l'Esprit Saint, à l'Esprit de sagesse. C'était en anglais, et sans qu'il s'en ait douté, c'était l'équivalent de « Veni Esprit Saint, Veni Sancti Spiritus » de la prière catholique. Et la lumière est venue dans son cœur. La protection toute-puissante de la Sainte Vierge a achevé sa conversion à Lourdes, où il a fait sa première communion. Il a été confirmé en 1892, et c'est lui qui, spécialiste des maladies des yeux, a fait plusieurs fois dans cette catégorie à la demande du docteur de Boissary, des enquêtes décisives. À Lourdes, après tant d'autres, il y a aussi le professeur Guigné, agrégé de Montpellier, qui écrit ce très beau témoignage. Sceptique pendant plus de 30 ans par éducation professionnelle, à la manière des médecins trop occupés, indifférents ou blasés, qui se bornent à faire de superficielles lectures de comptes rendus incomplets, à entendre distraitement les récits des témoins les plus sérieux et les plus certains, ou même à voir sur place, mais en passant, et sans les regarder dans leurs détails, les réalités de Lourdes. Lentement saturées d'observations multipliées, concordantes, mais plus instructives et finalement convaincues, j'ose, à mon tour, essayer de dire ce que j'ai vu, entendu, touché, lu et finalement appris dans cette clinique du miracle qui est Lourdes, certainement unique au monde et qui mérite bien et sa renommée et son incomparable attrait. À Lourdes, on a pu entendre le docteur Juge, c'est un drôle de nom pour un médecin, le docteur Juge, chirurgien gynécologue de Marseille, qui disait comment il était devenu le médecin qui recevait la communion et qui servait la messe chaque jour, parce qu'il avait palpé un miracle eucharistique chez Madame Augaud, qui avait été délivrée soudain d'un volumineux fibrome. Quand un fibrome volumineux disparaît instantanément parce que devant elle, cette femme avait le Saint-Sacrement, il y a une limite. Ça disparaît pas comme ça. Ça tient à une action particulière, à mon sens, de Dieu. Ce médecin, le docteur Juge, a compris. À Lourdes, le docteur Nimot, un médecin, accompagnateur de Marguerite Deschamps, a confié son étonnement de la guérison formidable de sa maladie. Je vous la raconterai un jour. Il y a aussi le témoignage de la conversion du docteur Crozet, un médecin averti de la même Marguerite Deschamps, qui est l'une des plus grandes miraculées de Lourdes. Et qui n'a pas entendu parler du grand docteur Alexis Carrel, qui s'est penché curieusement, la loupe à la main, sur le problème des cicatrisations rapides. On l'a entendu, on l'a lu, hein, raconter son étonnement, son ahurissement passé en face de la guérison soudaine et impossible d'espérer humainement de Marie Bailly, un autre Bailly, mais cette fois-ci c'est B-A-I-2-L-Y, plutôt que notre Gérard Bailly de tout à l'heure. Il l'avait contrôlé à la grotte, Alexis Carrel, cette guérison, le 28 mai 1902. Il fait qu'il devait décider de son retour à Dieu. Il l'a raconté, d'ailleurs, dans ses mémoires, avec beaucoup de finesse. Vous avez déjà lu ça, je l'espère, le voyage de Lourdes d'Alexis Carrel. On lisait ça, je me souviens, on était émerveillés par ce récit. Oh, je pourrais vous multiplier toutes sortes de témoignages de grands médecins qui se sont convertis. Il y a le docteur Costantini, futur maître de la faculté d'Alger, dont tous admiraient à l'époque la droiture, le courage, la haute compétence chirurgicale durant la guerre 14-18. Il est venu souvent recevoir les enseignements évangéliques d'un père Lenoir. Il n'avait pas grandi dans un climat religieux, mais son âme cherchait Dieu. Jésus-Christ, disait-il un jour, c'est la plus belle figure de l'humanité, mais qui montrera qu'il est vraiment le Fils de Dieu? Et un soir, il attendait les grands blessés de première ligne à l'ambulance chirurgicale de Beaurieu, et un groupe de médecins militaires, parmi lesquels était l'inoubliable Jean Brault de Montpellier, posait le problème des guérisons de Lourdes. Et longuement, Joseph Bellenet citait des faits, des exemples typiques. Chacun apportait son explication ou son objection, puis il fallait répondre à tout. Alors le lieutenant Henri Costantini, dont je vous parle, écoutait, lui, silencieux, méditatif. Il concentrait sa pensée pour bien comprendre, parce qu'il était devant des choses qui le surprenaient. Et les aléas de la guerre ont séparé Joseph Bellenet du professeur Costantini. Et 2 ans plus tard, Costantini est allé à Lourdes avec sa femme, qui était une infirmière, major aux ambulances de première ligne, une femme courageuse. Et il dit à l'abbé Joseph Bellenet, « Monsieur l'aumônier, vous ne savez pas ce que je vous dois. Je cherchais Dieu et vous me retrouvez aujourd'hui, l'ayant trouvé et suivi, désormais. Vous nous avez, certains soirs, apporté de telles preuves apparentes des merveilles de Lourdes que j'ai voulu la guerre finie en avoir le cœur net. Et j'ai étudié la question et je me suis rendu à l'évidence. J'ai fait ma première communion à 33 ans, l'année de mon agrégation de chirurgie. Et je ne veux pas être seulement un catholique pratiquant, mais je veux être un catholique militant. » Il a tenu sa parole. Il est devenu conseiller et ami d'un groupe florissant des étudiants catholiques des lycées et des facultés d'Alger, à l'époque où il y avait beaucoup de catholiques à Alger, il n'y en a pour ainsi dire plus maintenant. Il a tenu parole. On l'entendit très souvent défendre la cause de Notre-Dame de Lourdes. J'y suis allé à Lourdes, à reculons, pensant que c'était un lieu de pauvres femmes et de bonhommes plus ou moins crédules. Oh, j'avais bien entendu parler de Lourdes, j'étais jeune, j'avais 24 ans. Je voulais rentrer dans un monastère bénédictin, mais je me disais Lourdes, Lourdes, des miracles, bah. Et aller prier avec tout ce monde, ça me gênait un peu, j'étais prétentieux, idiot. Et quand je suis entré dans Lourdes, j'étais plus ou moins peiné de voir tous ces magasins, mais quand j'ai traversé la clôture de fer qui sépare la ville de Lourdes du territoire proprement dit, là, du territoire sacré, où est la basilique de Lourdes, où est la grotte où elle est apparue, Marie, là où sont les piscines miraculeuses de cette eau sacrée, étrange, qui n'a rien de particulier à l'analyse. Eh bien, j'ai changé d'avis. Car j'ai vu là tant de dévouement et tant de gens merveilleux, soit qu'ils soient très instruits ou très simples, des gens de la campagne comme des gens des grandes facultés de médecine, qui s'occupaient des malades avec tant d'intelligence, de joie et de bonté, que j'ai participé le soir à ces grandes cérémonies aux flambeaux. Et j'ai chanté comme tout le monde, avec beaucoup de cœur, Ave, Ave, Ave Maria. C'est très gênant de chanter ça quand on est prétentieux. Mais ça fait beaucoup de bien. Notre professeur Costantini, qui était un professeur émérite, correspondant de l'Académie de médecine, qui était un chirurgien considéré comme un des plus grands, dont on le voyait prier volontiers, devant la personne qu'il allait opérer, se recueillant. Il dit, « J'opère, mais c'est Dieu qui guérit. » Il disait ça comme le fameux Ambroise Paré. Un jour, il faudra parler d'Ambroise Paré. Quel personnage merveilleux. Et puis, il devait revenir à Lourdes en pèlerinage de reconnaissance pour une grâce qui lui avait été accordée. Il y est venu. Il habitait la Gironde. Il y est venu en été, à pied. Pendant 10 jours, il a marché vers Lourdes. 10 jours. Comme un pauvre, il est arrivé fatigué, mais joyeux, pour remercier la Sainte Vierge, à la grotte de Lourdes, tout simplement, ce grand chirurgien, comme les gens les plus ordinaires, avec une foi simple. J'aime toujours, moi, dans les églises ou les lieux chrétiens où je vais, de voir ces grands professeurs, ces grands savants, qui savent s'incliner et poser les gestes les plus simples, comme recevoir un morceau de pain en se disant que c'est Dieu lui-même, qui savent s'agenouiller au pied d'une statue en sachant qu'ils parlent à la personne qui est représentée, qui savent s'asseoir dans une église et écouter Dieu au fond de leur cœur, ou simplement dire qu'ils l'aiment. C'est absolument merveilleux. Le professeur Costantini est mort, comme s'il était mort, dans les bras de la Sainte Vierge, dit-on. Quand on voit des choses comme ça, puis c'est très peu, je pourrais vous en parler pendant des mois, des mois, des mois et des mois. Pourquoi ne lit-on pas tous ces documents? Pourquoi ne les connaît-on pas? C'est un des mystères, une des choses les plus incompréhensibles. Je me demande ce que nous faisons de notre temps. Tu m'as fait pour t'aimer, ô Seigneur, qui m'attire et qui me veut pour toi. Je suis fait pour aimer sans frontières et sans fin, pour aimer l'infini. Je suis fait pour t'aimer, pour te donner mon cœur et posséder le tien. Tu m'as fait pour l'amour, pour un amour immense, ardent et insatiable, et toi seul peux combler cette soif si brûlante que tu m'as inspirée. La grande soif d'aimer ne peut trouver qu'en toi l'apaisement final. Je suis fait pour t'aimer. Tout en moi crie vers toi et t'appelle en silence. Toutes mes facultés, mes forces, mes désirs se dirigent vers toi. Tu m'as voulu ainsi pour que de tout mon être, je puisse t'embrasser et pour qu'en tout moi-même éclate le bonheur un jour de te saisir. Je suis fait pour t'aimer, t'aimer dans le mystère où tu te tiens caché, t'aimer dans la clarté où tu te livreras sans voile à mon regard. Je suis fait pour t'aimer et pour te ressembler, ô Dieu qui est amour. C'est une prière du Père Jean Gallo, jésuite. Extrait de Prier dans le secret. Des gens qui aiment cherchent actuellement au Québec des familles adoptives, des familles toutes données, comme ils écrivent, largement ouvertes à l'enfant handicapé, en attente d'une famille et dont personne ne veut. Des familles prêtes, non pas à tout donner, mais à se donner et à mourir à elle-même en se renonçant. Car, faut-il le dire, accueillir un enfant blessé est un chemin décapant et exigeant en amour. Et ils ajoutent, n'attendons pas de devenir parfaits pour entreprendre une telle démarche.